Quel étrange destin que celui des restes. Né de la décomposition des cultures dominées, les restes subissent tour à tour l'oubli, le mépris, l'indifférence, la censure ou la mort. Mais ils peuvent aussi être apprêtés ou bricolés pour énoncer de nouveaux mythes sur les origines. C'est ce qu'a réalisé la modernité conquérante de l'Occident face aux civilisations traditionnelles qu'elle mettait en perdition. La Suisse moderne constitue un lieu exemplaire de cette opération. Ici, le pouvoir novateur des villes a sans cesse bricolé les restes des cultures montagnardes et campagnardes qu'il condamnait à disparaître. Ainsi s'est produite une double invention de la Suisse et des Alpes sous la forme d'un mythe matérialisé en pays miniature, à la fois parfait et irréductible, enfermé sur lui-même. L'auteur de ces propos, Bernard Créta, propose donc de faire le deuil du reste enjolivé et de revenir à la beauté énigmatique du reste initial, source d'étonnement et de création. Il veut ainsi dire adieu aux Alpes pour voir les montagnes autrement. Alors voilà en quelques mots peut-être, pris au quatrième de couverture d'un livre écrit par Bernard Créta, la ligne directrice de l'exposition « La beauté du reste », exposition que vous pouvez voir en ce moment à l'annexe du musée d'ethnographie de Genève, annexe qui se trouve à Conches. Et c'est de cette exposition dont nous parlons avec Anne Grossenbacher, puisque Anne a été la responsable de la mise en scène de cette exposition aux côtés de Bernard Créta. Cette exposition s'appelle « Confession », un sous-titre « Confession d'un conservateur de musée ». Et donc, c'est dans l'optique que je viens de vous lire que cette exposition a été conçue. Alors, nous n'allons pas ici rentrer dans les moindres détails, et surtout pas dans l'essentiel de l'exposition, parce que ce serait une discussion à mener, bien sûr, aussi avec Bernard Créta. Mais, comme on se le disait avec Anne, il est inévitable, si on veut parler de son travail de mise en scène, d'aborder de temps en autre le fond de l'expo, puisque bien évidemment, son travail consistant à tenir compte de la proposition, et comme elle a participé, comme elle vous le disait tout à l'heure, au scénario de l'exposition, bien évidemment, ce qu'elle a choisi comme mise en scène correspond à un certain signifiant, n'est-ce pas, Anne? C'est bien évident, quoi. Alors, c'est pour ça que nous sommes bien obligés de rentrer dans l'aspect lui-même de l'exposition. Je me permets juste de vous dire que le quatrième de couverture que je vous ai lu tout à l'heure, c'est donc le livre qui s'appelle « La beauté du reste » et qui est publié aux éditions Zoé, donc signé Bernard Créta, si vous pouvez le trouver, donc en librairie. Alors, peut-être Anne, rentrons dans cette histoire. Alors, on le disait tout à l'heure, tu es bien sûr rentrée au service de l'idée de Bernard Créta, mais il t'a fait participer à la conception, au scénario lui-même. Et toi, à un moment donné, tu as dû lui faire des propositions. Ça se caractérise finalement par l'exposition. Je ne sais pas si nos auditrices et quelques auditeurs sont allés voir l'exposition finalement. On va essayer d'être le plus concret possible pour vous faire vivre ces espaces. Mais en gros, le musée a 3 étages, on pourrait dire, hein, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Et bien sûr, à chaque étage, il y a un signifiant différent proposé à chaque étage. Et même sur chaque étage, il y a différents espaces proposés. Donc, chaque fois, il a fallu se dire, bon, bah, là, j'utilise cet espace pour parler de ça. Puis, il y a une progression du haut en, du bas en haut, puisqu'on monte plutôt l'exposition. L'exposition commence jamais par le haut, non? Alors, je ne sais pas par quel bout tu as envie, toi, de prendre cette idée, mais bien évidemment, est-ce que c'était une chose difficile pour toi, puisque tu l'as donnée, de rentrer dans l'esprit de l'expo? Parce que si par hasard, tu n'avais pas été d'accord avec la vision quand même particulière hein, que propose de l'ethnographie Bernard Créta dans sa vision, sa confession d'un conservateur de musée, qu'est-ce qui se serait passé? Tu aurais dû dire à Bernard Créta, écoutez, je suis désolée, mais ça rentre pas dans... Je suis pas du tout d'accord avec vous. Comment ça se passe?
Non, mais je pense que j'ai pas toujours été d'accord. D'ailleurs, je ne suis toujours pas d'accord avec certains de ses propos. Mais je pense que mon rôle à ce moment-là, c'est certainement pas de vouloir changer son idée ou bien de dire la mienne. De toute façon, j'ai eu l'impression dès le début que ce qui était un défi pour moi et puis tout l'intérêt pour moi de ce travail, c'était justement d'arriver à transcrire son propos. Et c'est là où...
Mais tu dois y croire d'une certaine façon malgré tout. Autrement, si tu y croyais pas du tout, tu n'y arriverais pas. Ou bien tu serais quoi? Décoratrice comme tu le disais tout à l'heure?
Ouais, je pense que si on n'y croit pas du tout, effectivement, peut-être qu'on a, à ce moment-là, on a un investissement qui est très différent, et puis peut-être qu'à ce moment-là, on fait un travail de décoration seulement. C'est vrai que j'ai pas du tout eu l'impression de travailler dans ce sens-là, mais je crois quand même que qu'on peut comme ça s'imprégner. D'ailleurs, c'est peut-être étonnant à quel point on peut s'imprégner du propos de quelqu'un d'autre. Et je crois que peut-être à certains moments, on devient très, très subjectif. Peut-être que même on s'éloigne de ses propres idées pour arriver à s'imprégner de celles de quelqu'un. Et je pense qu'il y a des allers-retours comme ça. Mais j'ai fait ça pendant... Comme ça, c'est un travail d'assez longue haleine. Je pense qu'à certains moments, on est très influencé et puis qu'on a peu de recul. Puis à certains autres, on revient en force, en réagissant, mais on n'est pas toujours si c'est pas si évident.
Alors très concrètement, est-ce que tu penses que c'est une bonne démarche si on se promène un petit peu dans l'exposition en essayant d'être concret pour nos auditrices et nos auditeurs et que peut-être tu nous expliques très concrètement comment, qu'est-ce que cela veut dire ce que tu nous as expliqué jusqu'à maintenant, à savoir à la fois faire des propositions pour le scénario, entrer dans un point de vue et puis le traduire par une mise en espace avec des objets que tu connaissais pas forcément très bien toi-même. Mm-hmm. Donc que tu as dû peu utiliser comme ça à brûle-pourpoint. Au rez-de-chaussée, il y a dans la deuxième salle dans laquelle on rentre, par exemple, justement un de ces grands changements dont tu parlais tout à l'heure dans la maison. On marche sur un sol qui est recouvert de gravier, des assez gros cailloux. Hein, on ne marche pas normalement, vraiment. C'est difficile de marcher. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir, de ne pas sentir. Et au milieu de la pièce, il y a vraiment un amas d'objets. Je ne crois pas qu'on peut dire autrement. Hein. Les objets sont entassés les uns sur les autres et des objets d'un peu tous les genres, qui sont à la fois des objets montagnards, ruraux, mais on repère aussi des objets urbains.
Tout à fait. L'idée dans cette pièce-là, en fait, c'était de reconstituer, mais de donner l'idée du stock du musée, c'est-à-dire de la réserve, hein. Des objets... quand ils ont ce statut de n'être pas encore ni inventorié, ni...
Juste reste, étudié, pour l'instant.
Juste reste, voilà, dans leur état brut. Et en fait, je les ai assemblés dans une forme qui était pour moi un peu symbolique, d'un ovale comme ça, qui est à la fois une forme à la fois dynamique et à la fois... au centre de la pièce, c'est-à-dire qu'au lieu de poser les objets, par exemple, sur les murs ou les exposer comme peut-être on aurait eu le réflexe de le faire, j'ai eu envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de créer une circulation autour des objets et de les centrer dans la pièce. Donc, pour donner cette impression de reste, il a fallu en fait faire un choix d'objets qui était complètement hétéroclite, c'est-à-dire créer des contrastes entre eux, de créer des tensions, de mettre des objets les uns à côté des autres qui peut-être se parlent entre eux de façon différente. Et je crois que là, le choix effectivement était très différent de ce qu'aurait pu être un choix pour une autre exposition, parce que j'ai choisi des objets qui étaient très laids, par exemple, qui peut-être ne sont pas reconnaissables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi ils servent. Certains objets sont cassés, sont sales. Je pense que c'est une façon de choisir qui était très différente. Au lieu de choisir un objet pour son sens historique ou bien pour sa beauté plastique, on le choisit simplement parce qu'il est là. Et en fait, tous prennent un sens par le fait qu'ils sont assemblés et présents là, au centre de la pièce.
Le sol en gravier, parce que ce que tu viens d'expliquer maintenant, peut-être l'idée qu'on s'est engrangé dans des endroits particuliers. Mm-hmm. que le spectateur, que le visiteur soit dérangé par le sol, hein, puisque
je pense qu'il y en a qui sont dérangés par le sol. Ouais.
Ça avait de l'importance pour toi. Tu étais consciente de ça quand tu as décidé de mettre ce type de caillou par terre.
Je pense que c'était important de créer quelque chose de fort à cet endroit-là, quelque chose qui soit de l'ordre de, je sais pas, de toucher le fond, je sais pas si on peut dire. En même temps, ça avait un sens dans l'exposition tout entière, c'est-à-dire qu'il y avait une idée de cave ou grenier ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'idée du caillou qui est important, c'est-à-dire que dans toute l'exposition, il y a une espèce de répétition de cette idée de pierre, de ruine, de reste. Donc là, il est présent encore sous une autre forme. Donc je pense qu'à plusieurs niveaux, c'était important qu'il soit là, oui.
Et là, dans cette salle, il fallait bien traduire un peu déjà l'idée de Greta, que tous ces restes sont amassés dans l'indifférence générale. Les gens ne s'intéressent plus à ça.
Je crois que c'était de reproduire ces restes dans tout ce qu'ils ont comme sens différent, c'est-à-dire aussi bien le foutoir, parce que lui, il a tous ces objets-là qui l'entourent, lui, il appelle ça son foutoir, sa poubelle, c'est tout des objets qui s'entassent les uns sur les autres depuis des années, mais c'est aussi un trésor, et ça, c'est une idée que j'ai essayé de faire passer avec la lumière.
Qui sont donc des fils d'ampoule, des lignes d'ampoule.
Des petites ampoules qui parsèment en fait les objets, au lieu d'avoir des spots qui sont dirigés sur eux. L'idée, c'est que ces objets en fait prennent vie avec la lumière qui fait partie intégrante de cette espèce de construction qui est faite avec tous les objets. Donc il y a à la fois une idée de foutoir, à la fois une idée de trésor, à la fois une idée de... Ouais, d'être un peu suspendu à cet amas d'objets qui est étonnant par ses contradictions.
Est-ce que le lieu du musée d'ethnographie de Conches est une contrainte par moment ? Je ne sais pas, là, vraiment, je prends un exemple tout bête, je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais quand tu mets ces cailloux sur le sol, est-ce que tu as à te dire, mais est-ce que ça ne va pas traverser le plancher ? Bon, là, on est au rez-de-chaussée, alors peut-être ça n'a pas d'importance, mais suivant ce que tu as envie de réaliser, il y a peut-être des contraintes matérielles quand même. On a parlé beaucoup du fond, là, jusqu'à maintenant, mais il y a des moments où tu dois peut-être tenir compte des réalités matérielles.
Ah, mais bien sûr, il y a plein de contraintes. C'est vrai que je me suis posé la question de me dire... C'est vrai que là, c'était au rez-de-chaussée, ça posait pas de problème, mais bon, ça fait un certain poids, parce qu'il faut, je sais plus combien c'est de mètres cubes, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout. Il y a plein de petits problèmes techniques, par exemple, le gravier, il est arrivé, il était détrempé, parce qu'il avait plu pendant un mois, il faut que ça sèche avant de rentrer, il a fallu que les gens du musée... mettre le gravier petit à petit, c'est du boulot, c'est plein. Ouais, c'est vrai, c'est plein de petits détails qui font que c'est.
Qu'ignorent toutes les personnes qui visitent un musée. Absolument. Je crois que ce serait l'occasion que tu nous fasses découvrir toutes ces contraintes qu'on a de la peine à imaginer. Alors, si on continue notre visite, alors, si on essaie de résumer l'idée de Greta, si tu as l'impression que je divague complètement, mais j'essaie de m'inspirer un petit peu du passé. C'est difficile, hein, je dois vous avouer que suivre M. Bernard Greta dans son idée, ce n'est pas toujours facile. Hein, mais je crois qu'il vous faut aller voir vraiment. Il pose des questions intéressantes, bien évidemment. Mais apparemment, par le petit livre qui accompagne aussi la visite, eh bien, l'étape suivante serait « Que peut-on faire avec les restes ?» Est-ce qu'on peut bricoler ces restes ? Vous vous rappelez, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il disait, à un moment donné, ces restes soit sont méprisés, dominés, laissés dans l'indifférence, il peut être aussi apprêté ou bricolé pour énoncer des nouveaux mythes sur les origines. Et c'est ce que Bernard Greta, je crois, condamne beaucoup et regrette beaucoup, c'est qu'avec les objets pris de la vie traditionnelle des montagnards, des campagnards, etc., on a constitué un mythe incroyable de la Suisse et des Alpes, qui ne correspond absolument pas à la réalité, c'est ça contre lequel il s'élève. C'est juste, c'est faux. Je réduis beaucoup.
Je ne sais pas s'il s'élève contre le mythe lui-même.
L'utilisation des restes.
Il retrace l'origine du mythe, donc à travers l'exposition, en passant par au premier étage, une première salle où il évoque les inspirations
habituel du reste
du mythe suisse, si vous voulez, si tu veux, en fait. C'est-à-dire qu'il il explique comment on a rebricolé en fait justement tous ces objets du monde montagnard en s'inspirant de dans la première salle, en s'inspirant de la Grèce, c'est-à-dire que les Suisses voulaient trouver leur propre référence et en admirer, bon là entre autres la première pièce s'inspire du 18e siècle où on avait des inspirations grecques, et il y a une référence à la planche d'encyclopédie,
voilà, une page d'encyclopédie.
D'Hydre d'Alembert. Et donc dans cette pièce-là, on voit en fait l'origine du mythe, c'est-à-dire ce moment où on a sorti les objets de montagnards, comme je sais pas, la charrue ou une baratte, etc., de leur contexte, pour les idéaliser complètement, les dessiner sur des planches et qui avaient une transparence extraordinaire, avec tout, c'est en fait le début du mythe. Donc dans cette pièce-là, il y a par exemple une charrue qui est suspendue, c'est une pièce complètement blanche, un sol blanc, des murs blancs, qui est en fait comme une espèce de reproduction d'une planche d'encyclopédie, où une charrue en fait est suspendue au mur, il y a une baratte, une miniature de moulin, donc trois objets qui sont suspendus sur chacune des parois, et on essaie d'introduire cette idée justement du début du mythe, si tu veux.
Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment tu as imaginé la pièce qui suit. Parce que là, ça paraît assez clair, la page d'encyclopédie. Hein. Mm-hmm. Je crois que les gens sont... Mais ce qui m'a frappé en entrant dans la pièce suivante, c'est que j'ai eu la sensation que les gens qui visitaient ce jour-là l'exposition en même temps que moi ne portaient pas attention à ce que vous aviez l'intention qu'ils y portent attention. Je suis très, très gonflée de dire ça. Mais cela m'a frappée. Peut-être essayons de décrire. Je vais peut-être te lire comme j'ai vu cette chambre. Et puis peut-être ça ne va pas du tout avec l'intention que tu voulais y mettre. Et ça, je trouve que c'est une question intéressante. C'est de peut-être parfois la distorsion qu'il doit y avoir entre l'intention que vous aviez en tant que concepteur de l'exposition, mmh, Créta et toi-même, et puis la façon dont les visiteurs finalement perçoivent ce que vous y avez mis. Hein. Dans cette salle, alors on est en plein dans cette réflexion sur comment le monde occidental a bricolé, a utilisé ses restes et a construit un certain mythe au lieu de voir ce qu'il y avait vraiment derrière, comme travail, comme vie. Et là, dans cette pièce, on entre dans une pièce qui est très, très proprette. Mm-hmm. Grande pièce rectangulaire, cette fois-ci avec les fenêtres sur un très beau jardin à l'extérieur. Les murs sont tapissés, mais une tapisserie, pas des petites fleurs. C'est du, comment on appelle ça, du papier craft, voilà. Il y a à mi-hauteur, comme dans les chalets, comme dans les maisons de campagne, une frise décorative en bois, sur laquelle sont suspendus toutes sortes d'objets typiquement du monde paysan et montagnard. Et puis, sur les plinthes qui sont à la limite du plancher, toute une série de mots qui s'inspirent peut-être cette fois-ci beaucoup plus du mythe, comme par exemple patrimoine, montagne, enfin, faudrait que j'ai une petite liste sous mes yeux là, mon Dieu, est-ce que je...
Oui, montagne.
Voilà, artisanat, patrie, village, typique, patrie, mal du pays, indigène, chalet, chauvin, clocher, enfin bref, on pourrait faire une très longue liste. Mais il n'y a que ça dans la pièce.
Plus au centre de la pièce.
Ah, plus le centre, ah oui, alors pardon. Le centre de la pièce, quelque chose de très étrange sur un socle. Des lignes par terre dont on finit par comprendre peut-être que c'est le plan d'une maison. Mmh. Hein? Et puis, à nouveau, des objets qui sont sur ce plan, hein, qui sont censés aller avec les pièces de la maison.
Oui.
Voilà. Alors, c'est censé être une pièce habitée. Moi, je l'ai appelée la pièce habitée, dans ma tête, comme ça, entre guillemets. Hein? Alors, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais la sensation que Bernard Créta, quand il nous entraîne dans cette pièce-là, et toi, par la décoration que tu y mets, tu n'as pas vraiment envie que les gens s'arrêtent à chaque objet pour regarder ce qu'est chaque objet. Et en fait, tous les visiteurs qui étaient là en même temps que moi ce jour-là se penchaient sur chaque objet, prenaient le petit fascicule qu'ils avaient pu acheter à l'entrée et on leur disait telle chose c'est ça, telle autre c'est ça. Enfin, ils fouillaient pour vraiment identifier chaque objet. Les mots en bas sur les plaintes, je n'ai pas eu la sensation que les gens les regardaient. Le plan, je n'ai pas eu l'impression que les gens le remarquaient. Ça m'a étonnée.
Mais c'est possible. Je pense que de toute façon, chaque visiteur regarde selon sa curiosité. Et c'est vrai que peut-être que... Je sais pas ce qui regarde en particulier. Je pense qu'effectivement, le travail dans cette pièce-là, ça a été de... En fait, la pièce précédente et celle-ci symbolisent en fait l'idylle, hein, c'est-à-dire justement cette période en fait d'adoration du mythe, en fait... Dans la première pièce qui...
La page d'encyclopédie.
Oui, la page d'encyclopédie. L'idylle est donc d'inspiration de la planche d'encyclopédie avec l'inspiration du temple. Et on va glisser, en fait, de l'inspiration du temple au village. Et donc, la deuxième pièce dont tu parles, c'était de recréer, en fait... Le mythe du chalet, de glisser vers toutes ces idées de patriotiques, en fait.
Mais les gens ont marché à fond dans cette idée-là, puisqu'ils se cramponnent à tous ces objets pour les reconnaître.
Mais bien sûr, mais je pense que les gens marchent à fond, effectivement. Et je pense que cette pièce, elle a tout ce côté bois, tout ce côté chaleureux, tout ce côté patriotique, et puis les gens sont attirés par ça, certainement.
Pourtant, tu n'as pas choisi de reconstituer un vrai chalet. Donc là, le mythe a quand même des limites.
Non, je crois que le défi, c'est justement été d'évoquer ça, c'est-à-dire d'évoquer le dedans, par exemple, l'intérieur d'un chalet, mais sans reconstituer. C'est pour ça que, par exemple, le plan, en fait, il représente une époque où on a justement, c'est le début des plans d'architecture vernaculaire, mais en fait, les meubles, en fait, dans l'exposition, les meubles sont positionnés sur le plan. Et puis les objets qui seraient censés être à l'intérieur de la maison, en fait, sont disposés à une distance égale sur cette frise qui est contre le mur. Donc l'idée, en fait, c'est d'évoquer l'intérieur, d'évoquer l'ustensile, d'évoquer l'idée du rustique, de la patrie, mais sans jamais reconstituer l'intérieur d'un chalet ou d'une maison.
J'ai envie de dire, donc, on ne prend pas le visiteur pour un imbécile. On n'a quand même pas besoin de lui mettre une chose grosse comme une montagne au niveau de la signification devant les yeux. On pense qu'il fait aussi un décodage en visitant.
Je pense que c'est l'intérêt. Ça a été l'idée dès le départ, avec un propos de cet ordre-là, qui est quand même un propos tout à fait intellectuel et un peu compliqué, philosophique même. Je pense qu'il pouvait y avoir deux attitudes. L'une, c'était de vouloir absolument simplifier ce propos et puis le rendre plus didactique, plus anecdotique. Et puis l'autre, ça a été en fait prendre le parti de Bernard Créta, c'est ce que j'ai essayé de faire, et en fait de faire une mise en scène qui soit dans cet esprit-là. En fait, c'est une mise en scène que je pense est effectivement difficile. Rien n'est donné. Il faut effectivement faut essayer de lire les textes, il faut essayer de voir ce que ça évoque chez chacun, mais je pense pas du tout que ce soit facile. J'ai pas pris le parti d'être plus explicite que lui. Puis je pense que lui ne l'est pas. Et puis ça a été difficile au départ, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de lui dire que c'est pas possible, que c'est trop compliqué, qu'il faut faire simple, faut que les gens comprennent? Ou bien est-ce que mon rôle, c'est d'effectivement d'aller jusqu'au bout et puis de me dire, je prends son parti et puis je défends ce type de travail-là? Je pense qu'effectivement, c'était intéressant de travailler comme ça, parce que je crois que des expositions où on explique beaucoup, il y en a souvent, où la trajectoire du visiteur est à moitié mâchée et toute explicitée, c'est vrai que c'est une autre manière de travailler. Et là, effectivement, c'est une exposition qui est peut-être qui déclenche peut-être des choses qui font partir dans un imaginaire qui est peut-être personnel, qui donne pas de clé, qui donne pas de date, pas de... Ouais, je crois qu'elle laisse chacun la prendre un peu comme il veut. Puis il faut essayer. C'est sûr que si la personne s'intéresse aux propos, je pense qu'en étant curieux, en lisant les textes, peut-être qu'on peut se rapprocher puis essayer de comprendre ce qu'il a vraiment voulu dire. Mais peut-être que c'est pas absolument nécessaire. Peut-être qu'on peut se laisser aller. Peut-être qu'on peut regarder les objets simplement autrement, qui suggèrent peut-être d'autres choses.
Sans perdre l'essence du propos de l'exposition.
Moi, je pense toujours qu'il y a plusieurs lectures dans une exposition. Puis
qu'il faut et pas... tu y penses quand tu fais la, tu y as pensé en faisant la mise en scène.
Oui, j'y ai pensé. Puis je pense qu'il faut, je crois qu'il faut pas se faire d'illusions quand on a un propos qui est très très simple et très scolaire. Je pense qu'il y a aussi des tas de gens qui passent à côté d'autres notions, des notions d'émotion, de regards différents, de tas de choses. Alors on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Je pense que là, c'était un autre type de promenade. Et puis peut-être c'est important parfois de l'avoir.
Est-ce que justement de penser aux visiteurs, c'est une chose qui est souvent dans ta tête au moment où tu as fait la mise en, tu as réfléchi à la mise en scène de cette expo? Est-ce que tu te dis il y a des gens à la fois qui sont des intellectuels, il y en a d'autres qui, comme quand moi j'y étais, emmènent leurs enfants le dimanche de pluie. Est-ce que c'est présent dans ta tête ou c'est vraiment le propos qui t'intéresse au moment où tu réfléchis à la mise en espace?
Non, je pense que c'est présent. Je pense que pour moi c'est important cette idée. C'est peut-être contradictoire, parce que c'est justement une exposition qui n'est pas facile, donc peut-être que c'est le premier reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas permettre beaucoup de communication. Mais malgré ça, pour moi, c'était important. Peut-être que j'ai essayé de pallier à ce problème de propos un peu compliqués par une mise en scène que je trouvais moi-même belle, tout simplement, qui me donnait à moi du plaisir. Donc peut-être que je me suis dit que le spectateur, en prenant du plaisir à s'y balader, en comprendrait peut-être simplement le sens premier.
On continue tout de suite cette conversation, mais une petite pause, avec des musiciens bien bien suisses et qui ont aussi un peu remis en cause le mythe de la Suisse, c'est BBFC.